Chers amis des cellules, bonjour. Dimanche prochain, nous allons fêter la Pentecôte, et c'est pourquoi je voudrais méditer avec vous sur une partie de la deuxième lecture de dimanche prochain, tirée de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 25. Le titre de notre méditation pourrait être « Sous la conduite de l'Esprit-Saint ». Je vous lis le texte de la lettre de saint Paul aux Galates que nous entendrons dimanche. « Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. » Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Commençons par remarquer que la traduction liturgique nous offre par trois fois l'expression « être conduit par l'Esprit-Saint ». Au verset 16, je vous le dis, « marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint ». Au verset 18, « Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit », au verset 25, « Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit ». La traduction, en fait, écrase ici trois expressions grecques différentes que nous devrions regarder d'un peu plus près. Le premier, « marcher sous la conduite de l'Esprit-Saint », est littéralement « marcher avec l'esprit ou selon l'esprit ». L'esprit est un peu, si on peut dire, la manière ou le moyen par lequel nous marchons. Marcher au moyen de l'esprit, marcher à la manière de l'esprit. Et cela va se décliner avec les deux autres expressions. Au verset 18, c'est bien littéralement « si l'esprit vous conduit à la manière d'un berger, vous conduit à la manière d'un chef de guerre, celui qui donne les ordres, celui qui donne la direction. Il est celui qui montre la route, il est celui sur lequel je pose le regard pour avancer. Il est celui qui trace le chemin. » Le troisième « marchons sous la conduite de l'esprit » pourrait être compris comme « marchons au pas de l'esprit, mettons-nous au pas de l'esprit ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un effort de la personne pour, voilà, se mettre au pas de l'esprit, adopter l'allure de l'esprit, prendre la foulée de l'esprit. Tandis qu'au verset précédent, on insistait sur l'esprit comme celui qui conduit, au sens propre, ici on insiste plus sur l'effort qui est fait par la personne pour se mettre en harmonie avec le rythme de l'esprit. Ces remarques sur la conduite de l'esprit peuvent nous amener à nous interroger sur « est-ce que j'ai conscience que je suis appelé à marcher à la manière de l'esprit, au moyen de l'esprit ? Est-ce que je pose les yeux sur lui pour voir le chemin qu'il trace, me laisser guider par lui ? Est-ce que je fais l'effort de me mettre à son pas ? Est-ce que j'ai le désir de me mettre à son pas ? » Car il y a en nous un combat, et c'est le deuxième temps que je voudrais développer. Saint Paul nous parle d'un affrontement entre l'esprit et la chair. Alors soyons vigilants ici à ne pas faire de contresens parce que c'est un vocabulaire propre à saint Paul qui est ici introduit. L'esprit, non pas au sens intellectuel, mais au sens de l'esprit saint, le souffle, et la chair, sarx, mais pas au sens de la chair où nous l'entendons ordinairement. Je m'explique. Quand saint Paul oppose chair et esprit, il désigne par le terme de chair tout ce qui en l'homme, corps et âme, a été déformé, perverti par le péché. Dans l'opposition chair-esprit, chair ne désigne pas la matière de la chair, la matière du corps de l'homme par opposition à son intellect, cela désigne tout ce qui en l'homme a été souillé, marqué par le péché, et est donc corruptible comme la matière est corruptible. Et dans l'opposition chair-esprit, il désigne par esprit tout ce qui en l'homme a été racheté, renouvelé, restauré par l'Esprit Saint. Donc le corps de l'homme restauré par l'Esprit Saint, l'esprit de l'homme restauré par l'Esprit Saint, l'union du corps et de l'esprit renouvelé, restauré par l'Esprit Saint. Il faut que ce soit très clair pour nous, parce que sinon nous faisons un contresens sur ce que veut dire saint Paul, et nous avons l'impression qu'il a une haine de la corporéité, de la matérialité de l'être humain. Ce que Paul veut souligner, c'est que ce qui a été marqué par le péché est soumis à une loi du péché, est soumis à une inclination au péché. Cette inclination résulte en notre faiblesse face au processus de la tentation. Alors je voudrais rappeler ce processus de la tentation, il est en quatre étapes. Première étape, la suggestion. Deuxième étape, la délectation. Troisième étape, le consentement. Quatrième étape, c'est son fruit, la tristesse. Prenons un exemple. Mon voisin a un gros paquet de biscuits et il s'est absenté un moment. Je vois ce paquet de biscuits et soudain j'ai un peu cette suggestion qui me vient, j'aimerais bien en manger et pourquoi ne pas en prendre? Parce que de fait il en a beaucoup des biscuits. Et puis, assurément, s'il était là et que je lui demandais, il m'en donnerait. Donc, pourquoi attendre son retour? Autant me servir dans ce paquet qui certes ne m'appartient pas, mais il en a tellement, ça va pas lui manquer. Voilà une suggestion de m'emparer du bien d'autrui sans son consentement, c'est-à-dire du vol. L'étape de la délectation, c'est que justement, j'imagine que ce biscuit, là, il a l'air fort croustillant, il est joliment chocolaté. Et puis c'est vrai que j'ai faim et ça ce serait tellement bon dans ma bouche, j'en sens déjà l'odeur et il a une jolie consistance là dans mes doigts, je le connais, je me souviens de cette consistance. Voilà que je laisse mes sens se délecter en imagination de l'appropriation de ce biscuit. Je donne alors mon consentement, je m'empare de ce biscuit alors que mon camarade, mon collègue est absent, et je mange ce biscuit. C'est le consentement à l'acte de vol dans le cas présent. Le fruit du péché ensuite survient, qui est celui de la tristesse d'avoir fait un acte que je savais mauvais, de ne pas avoir attendu pour poser la question, peut-être même de vouloir inventer une histoire pour camoufler ce que j'ai fait, ou de partir justement pour ne pas avoir à répondre de mon acte. Ce que Paul appelle la chair par opposition à l'esprit, et cette tendance, cette inclination, cette soumission au sens de « j'ai rendu les armes » à cette logique de suggestion, délectation, consentement, et ensuite le fruit qui est la tristesse. L'esprit nous amène à une autre logique, nous amène à un autre comportement, lui aussi en quatre étapes. Première étape, le commandement de Dieu. Deuxième étape, la confiance. Troisième étape, l'obéissance. Quatrième étape qui en est le fruit, la joie. Remarquons comment les quatre étapes se correspondent dans la logique de la tentation ou dans la logique de l'esprit. La suggestion est là pour nous faire oublier le commandement de Dieu. Souvenez-vous au jardin de la Genèse, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, car du jour où tu en mangeras, tu en mourras. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Après, au lieu de demeurer justement dans la confiance que Dieu veut notre plus grand bien, que Dieu connaît et veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, eh bien, Adam et Ève se laissent prendre par les délectations. Ils virent que le fruit de l'arbre était beau et bon à manger. Et ça les amène au consentement, au lieu de demeurer dans l'obéissance du chemin que Dieu donne, où Dieu va donner aussi ce qui est nécessaire à la vie. Et ça se termine pour eux par la peur, la tristesse, alors que le fruit de l'esprit, le fruit de la confiance en Dieu, est un fruit de joie. Et saint Paul les détaille dans la lettre aux Galates, c'est au verset 25, et je vous invite vraiment à vous familiariser avec ces fruits de l'Esprit Saint. Ça vaut le coup même de les apprendre par cœur. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. On pourrait d'ailleurs qualifier le fidélité aussi de confiance dans les autres. C'est la possibilité d'avoir cette confiance dans les autres, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Pourquoi est-il important de les connaître? Eh bien, parce que c'est leur connaissance qui nous permet de suspendre, de repousser la proposition de délectation, de la suggestion, de la tentation. J'accepte de suspendre ce qui apparaît comme une délectation immédiate pour un bien plus grand qui est à venir. Pour prendre un exemple trivial, si le petit enfant veut connaître le gâteau au chocolat qu'a prévu de préparer sa mère, il faut qu'il s'abstienne de manger les deux tablettes de chocolat qui sont posées sur la table avec les autres ingrédients. Il le fera d'autant mieux qu'il a conscience qu'un bien plus grand est à venir que de manger tout de suite les deux tablettes de chocolat. En cette approche de la Pentecôte, demandons peut-être particulièrement d'être libérés de la fascination, de la délectation que la tentation peut provoquer. Demandons-lui aussi, à l'Esprit Saint, de nous faire apparaître clairement dans notre mémoire, dans notre conscience, quels sont les fruits de sa présence et de la marche à ses côtés. Ces fruits sont précieux, ces fruits se partagent, ces fruits illuminent l'existence. Puissions-nous en avoir conscience et les désirer pour marcher droitement sous la conduite et au rythme de l'Esprit Saint. Je vous souhaite de bons échanges.